Salut, c'est la revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, green, meuf et féministe.
Ça va piquer. Ça va gratter. On parle de l'actu, on fait des reportages, on dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique. On parle de lutte. On prend la parole et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Et si un jour, un événement changeait le monde entier.
Allô ?
Pardon de vous appeler si tôt.
Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord ?
Oui.
Je crois que c'est ce qui se passe.
Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée.
En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté de 8 mètres.
Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme.
Dites-nous sans détour ce que vous proposez, professeur. Que fait-on pour la population au nord ?
Si les gens vont dehors, la tempête les tuera.
Dépêche !
Leur meilleure chance de s'en sortir, c'est de rester à l'abri et prier.
Salut. Alors aujourd'hui, on est dans l'émission de JetFM 91.2, dans la revanche des hérissons. Et on va vous parler de collapsologie, qui est le thème commun à Jet pour le mois d'avril. Et alors la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement. Et l'effondrement, c'est quoi ? C'est ce que tout le monde se demande. Non, et c'est ce qu'on va essayer de cerner dans cette émission. Donc d'abord, on va vous passer un sketch et ensuite on va ouvrir notre gros dossier et on va parler de catastrophes un peu, mais surtout de politique, de capitalisme, de récupération de lutte et d'impérialisme.
Alors, vous l'avez lu ?
Ouais, ça m'a trop ouvert les yeux, ça a été une vraie révélation.
De quoi vous parlez ?
Bah, de son nouveau livre. Il est sorti il y a 2 semaines, t'es pas au courant ? Tout le monde en parle en ce moment.
Ben moi, du coup, j'ai commencé à faire des réserves.
Oui, nous, on a construit un bunker dans le jardin avec un lombricomposteur intégré.
Moi, j'ai acheté des boîtes de conserve pour tenir jusqu'à 2050. Mais t'inquiète, je les ai mis dans un coffre-fort pour pas me les faire piquer par les gens qui auront rien prévu.
Mais qu'ont pas prévu quoi ?
Bah, l'apocalypse, voyons. Ah non, t'es pas dans ta phase de déni. T'inquiète, tu vas bientôt comprendre.
Ah ouais, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai tout compris. Tout s'est dévoilé, tout a été clair d'un seul coup.
Mais de toute façon, en 2050, on sera toutes mortes.
Ouais, mais c'est aussi pour nos enfants et pour nos petits-enfants.
Moi, au début, quand j'ai compris ce qui allait arriver, j'étais dans une phase de colère et de peur. Mais maintenant, j'ai accepté et je suis sereine.
Ah ouais, mais c'est vraiment méga flippant ce que vous me racontez là, en fait.
Non, mais c'est normal, t'inquiète pas. Au début, c'est dur à encaisser. Mais il faut réussir en fait à dépasser la dépression pour entrer dans une certaine forme de résilience, tu vois, par rapport à soi, pour mieux rentrer en communication avec les autres et aussi avec la nature.
Mais c'est politique du coup comme truc.
Non, rien n'est politique. Tout est une question d'intuition et de raison, d'essence et de nature.
Voilà, donc vous avez peut-être rien compris à ce petit sketch. Voilà, c'est peut-être un peu ça la collapsologie.
voilà, ça nous faisait marrer de faire ça pour introduire un peu le sujet. Et du coup, maintenant, pour causer de collapsologie, on va s'écouter un petit montage de différentes phrases du pape de la collapsologie, Pablo Servigne. Du coup, c'est un mec qui a écrit des bouquins et tout sur les théories de l'effondrement. Voilà, et qui fait des très longs discours et tout ça. Donc, on a essayé de couper des bouts. Et que c'était pas hyper facile parce qu'il finit jamais ses phrases. Mais voilà. Et donc, il y a des petits bouts d'extraits de discours de Pablo Servigne sur la collapsologie. Et c'est suivi d'un petit bout de discours de Laurent Baup, qui est un chercheur en climatologie et qui est chercheur au CNRS et qui critique un peu la collapsologie. Voilà.
On a fait un best-of des mauvaises nouvelles de chaque discipline. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'interconnecter tout ça et de se rendre compte que chaque crise, en fait, est liée aux autres de manière systémique, ce qui mène à des constats, au constat que c'est imprévisible.
En 2015, dans votre premier ouvrage, Pablo Servigne, vous évoquiez cette possibilité d'un effondrement global en parlant d'intuition. Est-ce que 3 ans, 4 ans après, cette intuition, elle s'est précisée? Est-ce qu'elle s'est transformée en certitude pour vous?
Non, on ne peut jamais parler de certitude. Justement, ce qui est la clé, c'est l'incertitude. Moi, la science n'a aucun moyen de montrer avec certitude qu'il y aura un grand effondrement. Mais, à contrario, on n'a aucune certitude qu'il n'y aura pas d'effondrement. On ne peut pas le montrer.
Donc on navigue là-dedans. Il faut faire le pari que ça va avoir lieu pour s'y préparer si ça a lieu.
Exactement, d'où le titre de l'émission. Et c'était notre posture. On s'est mis sur les traces du philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui a, dans son livre « Pour un catastrophisme éclairé », a fait cette pirouette philosophique qui nous paraissait assez pertinente. C'est que quand une catastrophe est incertaine, elle arrive, on va plutôt la considérer comme certaine pour qu'on puisse se mettre en mouvement et avoir une chance de l'éviter. C'est parce qu'on la considère comme certaine qu'on peut l'éviter. Voilà le paradoxe de catastrophisme éclairé. Mais ça va se passer. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut anticiper les choses et devenir compétent. En émotion, en rituel, en initiation peut-être. Alors c'est des propositions, ça peut paraître farfelu, mais commencer à devenir compétent là-dedans, c'est aussi se préparer à l'émergence de la colère, de la tristesse. Et quand elles émergent au niveau collectif, politique, ça peut faire des dégâts. Ça fait et ça fera des insurrections et on ne sait pas ce que ça va donner. Les gilets jaunes, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc voilà, à un moment, l'idée c'est de prévoir ça.
Ça fait longtemps que je communique sur le climat, que comme Pablo Servigne, je raconte des chiffres d'abord, puis des histoires. Et au cours des années, je me suis rendu compte que raconter une histoire, ça suffit pas. Souvent, les climatologues ont parlé du scénario du pire. C'est pour ça que le terme effondrement, j'ai l'impression qu'il nous enferme un peu dans une histoire. Et je crois qu'il faut réouvrir et raconter des histoires.
Voilà, du coup, la première personne qu'on entend qui présente ce qu'est la collapsologie et la théorie de l'effondrement, c'est Pablo Servigne. Et du coup, la deuxième, on aura deviné, c'est Laurent Baup.
Ouais, je trouve dans ce discours, il y a déjà un truc hyper confus, qui est un truc sur basé à fond sur la peur.
Mais en fait, c'est ce qu'il dit au début du coup de cet extrait. C'est il a compilé toutes les mauvaises nouvelles pour en faire un scénario probable pour prévoir comment réagir face à ce scénario probable qui est déjà basé sur en fait toutes les niveaux d'alerte maximum des climatologues qui sont pas du tout certains. Et du coup, nous, un des trucs qu'on s'est dit quand on en a discuté, qu'on essayait de comprendre comment était structuré son discours et qu'est-ce qu'il disait. Du coup, il y avait d'abord, à la fois, c'était un discours qui se valait vachement scientifique et qui, en même temps, mettait en avant qu'il était basé sur de l'intuition.
Oui. Et moi, je trouve c'est dangereux de de faire d'un discours basé sur l'intuition un espèce de truc comme une vérité alors qu'en fait c'est basé un peu sur des croyances et que en fait l'intuition et les croyances là c'est pas un truc rationnel. Et quand il dit là par exemple on peut pas prouver qu'il y aura un grand effondrement, mais on peut pas non plus prouver que qu'il n'y en aura pas. Et ben, je trouve que c'est un peu.
On pourrait avancer n'importe. Enfin,
ben, on peut avancer n'importe quel argument, quoi. C'est ça. On peut pas prouver que les licornes n'existent pas. Du coup, il faut se préparer à en rencontrer une demain en sortant de chez soi.
Non, moi, ça me dérange pas qu'on critique plutôt la rationalité de la science en disant, ben, en fait, c'est incertain. Mais ce qui m'embête dans son discours, c'est que. Il y a pas c'est difficile de suivre où il va en fait, ce qui rend difficile aussi son comment monter ce qu'il dit, parce qu'en fait on se rend compte quand on décortique que il commence une phrase et en fait il la finit pas, il va sauter sur une autre idée et puis il va prendre par exemple le dernier épisode qui s'est passé là, ah oui comme ça et ça vous voyez, et il finit pas ses phrases alors qu'il les commence comme une démonstration, et enfin c'est impossible à suivre quoi. Et du coup, justement, dans son discours, il y a aussi un truc où, en fait, on va tout amalgamer dedans, quoi. Tout ce qui peut servir la théorie d'effondrement, on va le faire coller à ça.
Oui. Du coup, ça rend le truc un peu confus, en fait.
Bah, ça rend le truc confus. Et puis, c'est pas pour nier des trucs qui existent, enfin, au niveau modification climatique ou des constats qui ont été faits sur la fin du pétrole, etc., la montée des eaux. Mais c'est... comment dire? Comment on peut en faire une théorie de toutes les catastrophes vont arriver en même temps, il faut se préparer à ça, etc. Et aussi, qu'est-ce qui effraie, en fait ? Enfin, nous, on s'était demandé plutôt aussi qu'est-ce qui effrayait tant Pablo Servigné et du coup, les gens qui le suivent dedans.
On s'était demandé si c'était pas l'effondrement du système capitaliste, finalement, qui effrayait les gens et que nous, en fait, c'était pas quelque chose qui nous faisait peur, finalement, parce que c'était un peu la révolution.
Et je trouve... Il ne faut pas confondre l'effondrement et la révolution, en fait. Moi, l'effondrement du système capitaliste, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que ça ne va pas s'effondrer de soi-même. Mais par contre, il y a des gens qui luttent, en fait, pour que ça s'effondre et pour le détruire, en fait. Mais ce n'est pas du tout la même chose, je trouve, de parler d'un monde post-capitaliste, si c'est « Oh mon Dieu, le système capitaliste s'est effondré sur lui-même, tout seul comme ça », ou si c'est « Oh, chouette, on a détruit le capitalisme
!» Bah, c'est ça, il entretient vachement, j'ai l'impression, un discours de peur, en fait, ce qui est assez dangereux, parce qu'on sait que la peur rend les gens manipulables. Et en fait, toutes les fois où les personnes qui l'ont interviewé essayent de le raccrocher à quelque chose de politique, il évite la question, en fait. Il évite la question, les fois où ça a été nommé, mais est-ce que le capitalisme est une cause de l'effondrement ? Il est là, ah, ça peut faire partie des causes, mais il n'y a pas que ça. De toute façon, ça prend du temps de s'intéresser aux causes. Et à un moment donné, c'est, en fait, si tu réfléchis à... Il y a... des catastrophes qui arrivent, si tu réfléchis pas d'où ça vient, en fait, comment tu veux mettre en place des choses pour sortir de ce fonctionnement-là ? Mais tout comme, il y a une dépolitisation de son discours, enfin du discours.
Oui, carrément. Là, quand il parle, il dit ah oui, ça va émerger à un niveau collectif, politique, je sais pas quoi, et il parle de devenir compétent en émotion et en rituel. Et ça va faire un truc de ouf quand ça va émerger en truc collectif et politique. Enfin, moi, je capte pas du tout ce que ça veut dire. Ça. Enfin, c'est juste un truc... ça fait bien, ça fait genre grand discours, mais... Et du coup, bah oui, en fait, si on, bah c'est ce que tu dis, ouais, si on s'attaque pas aux causes et qu'on n'essaye pas d'analyser c'est quoi le système et comment il fonctionne. Et j'ai l'impression un peu dans la collapsologie, les gens ils critiquent un peu le système capitaliste, mais que dans ses excès, on va dire, ils vont critiquer le néolibéralisme à outrance, genre les multinationales pétrolières ou les trucs comme ça. Mais pas la société productiviste, la société de consommation, la société capitaliste, en fait, dans laquelle on vit et qui est le fondement du système, quoi.
Et ils vont étudier aussi l'impact, moi, j'ai l'impression, hein, d'un point de vue individuel et, en fait, pas du tout d'un point de vue du système économique. Ils vont causer, là, des personnes qui sont dans une transition. Du coup, ces personnes qui sont dans leur transition, qui sont un peu les élus de la collapsologie et qui ont vraiment conscientisé les choses, alors que les autres, quand même, ils n'ont pas conscientisé les choses. Et à aucun moment, ils parlent des pollutions qui sont faites par les industries, des déchets toxiques qui sont déversés dans les nappes phréatiques, l'exploitation des mines, ou de l'envoi des déchets, en fait, de nos déchets, des pays du Nord vers les pays du Sud, où en Asie, principalement, on va envoyer les pièces d'ordinateurs et d'électronique. En Afrique, beaucoup de ce qui est lié à l'automobile, les pièces détachées d'automobile, et que souvent elles sont envoyées parfois encore polluées. Et du coup, enfin, ça fait pas du tout partie de l'analyse. Et c'est la plus grosse masse de pollution en fait actuelle.
Bah oui. Non, mais de toute façon, enfin, moi j'ai l'impression l'analyse de Pablo Servigne et de ses petits potes là, et ben c'est ça exclut complètement. Les questions de l'impérialisme, du néocolonialisme et de... Mmh. En fait, bon, je trouve que c'est une petite question de... Ah merde, ça va être l'effondrement de mon petit confort bourgeois, quoi.
Ouais.
Mmh. Et du coup...
Mais on va faire zéro déchet. On va plutôt tous les envoyer.
Et bah non, mais juste je voulais rajouter aussi que ça exclut un peu le côté social, le côté bah ça pense pas les luttes en termes d'analyse de classe, de race, de genre, de ouais. sexualité, en termes de système et
ouais. D'ailleurs, quand on l'écoute, Pablo Servigne, on comprend que, du coup, sa copine ou sa femme a dû bosser pour lui gratuitement pendant qu'il faisait sa thèse et tous ses grands discours.
Parce que tu comprends, c'est dur de faire des recherches. On n'a pas le temps de faire la bouffe et de nettoyer ses chaussettes.
C'est ça. Et il y a juste un dernier truc, moi, je voulais ajouter. Et du coup, on va passer là un extrait d'une interview. On va vous introduire après. Et du coup, la personne à cause là de aussi de en fait le système de tri qui existe actuellement et qu'on un peu nous force, nous culpabilise si on ne fait pas. Enfin, c'est assez intéressant, c'est que beaucoup de choses qu'on trie va être servie parce que les collectivités sous-traitent aux entreprises et les entreprises vont revendre. Les choses qu'on trie, donc on travaille à trier gratuitement pour ces entreprises à l'étranger, quoi.
Ouais.
Pour recycler, en fait.
Mais que si on veut être de gentils écolos, il faut vraiment faire très attention individuellement à ces trucs-là, parce que c'est ça qui va
ça.
Nous sauver de l'effondrement.
Et vous, c'est gratos pour le capital.
peut-être on s'écoute un petit morceau de musique. Ouais, bah, c'est parti, on écoute ça.
Yeah.
Alors, on vient d'écouter The Revengers. La chanson s'appelle La Catastrophe. Et du coup, peut-être vous aurez entendu, ça parle en fait d'une catastrophe industrielle qui a eu lieu en Hongrie. Et du coup, d'une usine qui a pété, quoi. Et ça a déclenché une vague de boue chimique qui a tout cramé sur son passage. Les gens, les terres, voilà. Et du coup, on va enchaîner avec une interview de Nestor qui a été à un moment de 2013 à 2015 impliqué dans une lutte contre un incinérateur de déchets. Et puis, bah, il va nous raconter un peu tout ça. Salut Nestor.
Salut.
Salut.
Alors, t'as été impliqué dans une lutte contre la construction d'un gros incinérateur de déchets en Charente-Maritime. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur ce projet d'incinérateur et sur comment t'es arrivé dans cette lutte ?
Ouais, alors, c'était à Échillais, donc à côté de Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, comme tu l'as dit. Du coup, c'est un projet qui est sorti en 2012, et l'idée, c'était de construire ce que nous, on appelait un hyper-incinérateur de déchets, donc. C'était porté par le syndicat intercommunal du littoral. Du coup, les problématiques que posait ce type d'incinérateur, c'est que ça produisait énormément de dioxines et de fumées toxiques. Et donc, il y avait déjà un incinérateur à Échillais, hein, il y en a toujours un. Mais l'objectif de cet hyper-incinérateur était de fermer celui de l'île d'Oléron, qui était proche. Parce que bon ben c'était dans une zone touristique et du coup ça faisait un petit peu tache dans le paysage, alors que le pays rochefortais c'est pas très vendeur et c'est une zone où il y a pas mal de précarité, un taux de chômage à peu près 20% et enfin voilà, c'est vraiment une ville un peu morte.
Donc on s'en fout de mettre des incinérateurs chez les pauvres, quoi.
Voilà, c'est un petit peu ça. Et moi j'habitais à Rochefort, c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre part à cette lutte. Dès le début. Et donc c'est monté une association citoyenne qui s'appelait Pays Rochefortais Alerte, qui luttait donc contre ce projet. Association dont je ne faisais pas partie, mais il m'est arrivé de... En tout cas, dans les débuts, de travailler un peu avec cette association, d'organiser en tout cas les premières mobilisations avec cette association-là. Bon, voilà, c'est une lutte qui a été assez forte, qui a duré plusieurs années, qui a eu des phases multiples... Il y a eu une enquête d'utilité publique qui, nous a montré une fois de plus que ce genre d'enquête, c'était totalement de l'esbrouf et juste pour valider les projets. Ça a été mené par un cabinet indépendant. Et il y a eu plusieurs milliers d'avis d'habitants des alentours qui ont été relevés, parmi lesquels très très peu étaient favorables au projet, vraiment une ultra-minorité. Mais la commission d'enquête a quand même donné son accord. De toute façon, le syndicat intercommunal du littoral, je ne vais pas y arriver, avait déjà, avant même la commission d'enquête, promis le projet à Vinci. Voilà, donc c'était un partenariat public-privé. Donc,
c'est quoi le syndicat intercommunal blabla littoral, là ?
C'est, en gros, la composante qui gère la gestion des déchets sur le pays rochefortais et les alentours.
Ok. Donc, et ça, c'est un service public ou...
Ça, c'est un service public, mais qui délègue le traitement des déchets à Veolia.
Ok.
C'est-à-dire, c'est une instance d'élus qui délègue la gestion des déchets à Veolia. Et du coup, le projet a été confié à Vinci dans le cadre d'un partenariat public-privé, comme ça s'est fait à Notre-Dame-des-Landes pour le projet d'aéroport qui a été maintenant abandonné, comme ça s'est fait pour les lignes à grande vitesse. Donc voilà, c'est finalement des petits cadeaux que l'État fait aux entreprises, comme Vinci. Du coup, voilà, il s'agissait d'un agrandissement considérable de cet incinérateur d'Échillais. Qu'est-ce que je voulais dire ?
C'est quoi, du coup, les actions en fait qui ont été faites pour lutter contre cet incinérateur ?
Eh bien, alors, il y a eu tout un tas d'actions. Il y a eu des rassemblements, il y a des conseils municipaux, que ce soit à Échillais, qui est juste à côté de Rochefort, ou à Rochefort même, qui ont été perturbés, qui ont été même annulés parfois. Il y a eu des occupations. Il y a eu pendant quelques mois une occupation de type ZAD qui s'est installée sur place et qui a occupé le terrain. Bon, ils se sont fait virer assez violemment par les gendarmes. Et l'association Pays Rochefort et Alerte, par ailleurs, s'est lancée dans une grande bataille juridique avec diverses instances. Bon, voilà, je ne vais pas faire tous les détails de cette bataille juridique, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Bon, voilà, à savoir que cette bataille n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Le projet n'a pas vu le jour, mais aux dernières nouvelles, le syndicat intercommunal du littoral a saisi le Conseil d'État, car le projet avait été annulé par la cour administrative. Donc vous voyez, c'est en gros des juridictions qui se renvoient la balle.
Il y a eu d'autres occupations après qui se soient fait virer par les gendarmes ?
Non.
D'autres tentatives ?
Non, il n'y a pas eu d'autres occupations. Non, parce qu'après, le site était surveillé, ils ont installé des grillages, des caméras de vidéosurveillance, et le site était surveillé 24 heures sur 24 par des gendarmes.
Ok. Ça s'est passé comment, la fin de l'occupation, là ?
Ils sont fait virer comment, les gens ? Expulsion, gendarmes mobiles, hélicoptères... voilà, pour virer une vingtaine de zadistes, quoi. Un dispositif assez fou, voilà. Globalement, pas mal de répression sur cette lutte, que ce soit au niveau de la ZAD ou des manifestations qu'il y a eu contre ce projet.
Et c'est quoi, toi, qui t'intéressait dans cette lutte, dans quoi tu te retrouvais ?
Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de poser la question du traitement des déchets et de réfléchir collectivement la question du traitement des déchets. Et notamment, j'ai passé pas mal de temps à mettre un peu mon grain de sel dans cette lutte par rapport à des divergences assez fortes avec l'association citoyenne Pays Rochefort et Alerte, qui, beaucoup d'associations citoyennes, considèrent que lorsqu'on est contre un projet, il faut proposer absolument des alternatives. Des alternatives à ce projet. Et du coup, Pays Rochefort et Alerte en avait une toute trouvée. C'était la tarification incitative, également appelée peser embarquer.
Ça veut dire quoi ?
Alors, c'est un système formidable qui. On installe des poubelles individuelles, bon, ça c'est déjà le cas, mais qui ferment avec cadenas, avec une puce RFID sur chaque poubelle. Et le camion des éboueurs, quand il passe, il bipe ta poubelle et il la pèse. Et du coup, les gens payent leur facture d'ordures ménagères, finalement, au nombre de kilos de déchets non recyclables.
C'est dégueulasse.
Qui ont été jetés, finalement. Okay. Voilà. Du coup, ça, c'est un système qui s'installe de plus en plus dans de plus en plus de communes. Dès octobre 2013, donc dès les débuts de cette lutte, Pays Rochefort et Alerte a organisé une conférence avec la venue de Danny Dittmann, qui est le maire d'une petite commune du Haut-Rhin, qui est venu vendre son formidable système dont il est un des précurseurs, donc la pesée embarquée. Du coup, il nous a présenté un magnifique diaporama dont le titre était « Développement durable en marche vers l'économie circulaire ».
C'est quoi l'économie circulaire ?
Alors, l'économie circulaire, c'est l'idée qu'on produit des déchets, on peut les recycler, ils deviennent à nouveau des déchets et on peut à nouveau les recycler.
On peut continuer à faire du profit tranquillement, en continuant à faire payer les gens les mêmes trucs qui se recyclent à chaque fois.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça qui se passe. Et du coup, voilà, ça vient servir toute une économie verte. Voilà.
Et c'est marrant parce que sur ce truc de l'économie circulaire, là, le principe de... en fait, on peut faire de la thune sur les déchets. Et du coup, vas-y, trie tes déchets, ça nous fait du travail gratuit. Et après, nous, on va pouvoir faire du profit sur les trucs que tu auras mis au recyclage.
Si t'es pas d'accord, on va te faire payer financièrement ça.
En fait, du coup, les déchets, ça devient une propriété, ça devient un produit sur lequel on peut faire du profit. Et du coup, par exemple, ça amène à des trucs de condamnation de gens qui font de la récup. Parce que les poubelles, c'est pas des trucs qu'on jette, c'est des trucs qu'on peut vendre.
Mm-hmm. Ben oui, c'est ça qu'on en arrive à des situations assez hallucinantes où il y a des gens qui sont condamnés pour vol de poubelles, ouais. C'est sûr. Ça, c'est, je pense, une des problématiques en tant qu'anticapitaliste qui me posait problème. Mais c'était loin d'être la seule, parce que sur une ville comme Rochefort particulièrement, on est dans des populations relativement pauvres. Et Moi, je pense qu'il n'y a pas une égalité par rapport à la production des déchets, en fait. Je pense que clairement, ce n'est pas les mêmes classes sociales qui vont aller acheter leurs graines et leurs légumes en vrac chez Biocoop. Enfin, voilà,
qu'au supermarché. Dans des sacs en plastique.
Que, voilà, c'est sûr que les smicards, les familles de smicards et de smicardes qui taffent toute la semaine, n'ont pas forcément le temps de faire ça, ni l'argent de faire ça. Et du coup, voilà, c'est une des problématiques qui a d'ailleurs été, qui a d'ailleurs créé pas mal de mobilisations. Particulièrement dans des communes plutôt pauvres, contre ce système quand il était proposé ou imposé, parce qu'en général il était plutôt imposé. Et donc ça entraînait notamment des décharges sauvages, puisque forcément les gens, pour payer moins cher, balançaient leurs ordures à peu près n'importe où. Ça entraînait des manifestations dans certaines villes, des pétitions, il y a eu des incendies de poubelles, enfin c'était... dans plein d'endroits, ça passait très mal. Et ce que Danny Dittmann a oublié de dire, c'est qu'il était maire d'une petite commune plutôt aisée, du coup dans laquelle ça passait plutôt bien, et dans laquelle, enfin voilà, c'est la mode du zéro déchet, elle passe plutôt bien auprès des bobos, et pas forcément auprès des autres. Enfin, disons qu'il y a des gens qui ont d'autres préoccupations dans la vie que de faire zéro déchet.
C'est juste créer une taxe, en fait, sur les déchets, quoi.
Tout à fait, et ça pose plein de problèmes. Ça pose le problème du flicage déjà, de la banalisation, de l'installation des puces RFID. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, ce truc de responsabilisation, de responsabilité individuelle, soi-disant, là, de faire culpabiliser les gens par rapport à l'état de la planète, là, un peu comme Nicolas Hulot quand il nous dit qu'il faut couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents, vous voyez. Et que du coup, on oublie de parler des industries agroalimentaires, des grandes exploitations céréalières qui balancent de la flotte par hectolitre en pleine période de sécheresse. Enfin voilà, toujours la même chose, quoi. C'est les petites gens qui vont payer. Ça leur permet d'avoir bonne conscience, déjà. Ça les détourne des problématiques plus importantes, enfin des véritables responsables, en fait, du désastre écologique, quoi.
Ouais, et puis l'industrie va se faire deux fois plus de thunes, parce que les RFID, c'est qui les développe, c'est qui va récolter aussi le bénéfice des taxes de recyclage, etc., puisque c'était sous-traité à Veolia, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Du coup...
Tout à fait. Et puis les entreprises sont, enfin, en tout cas dans les secteurs géographiques où ça fonctionne, parce que ça fonctionne pas toujours, je vais y revenir après, mais dans les secteurs géographiques où ça fonctionne, faut savoir que quand même, on trie nos déchets pour enrichir des industries quand même. Enfin, avec nos bouteilles en plastique, on fabrique des pièces de bagnole, quoi. Du coup, on fait gratuitement du travail pour les industries. Finalement. C'est intéressant quand même.
C'est très fort.
Et en plus, on nous fait payer si on trie mal nos déchets.
Voilà. Et du coup, par exemple, à Échillais, sur l'incinérateur déjà en place, on a constaté des choses assez hallucinantes. C'est-à-dire qu'un incinérateur, une fois que c'est allumé, ça doit tourner, en fait. Il faut qu'il y ait des choses à brûler. Parce que c'est hyper compliqué de rallumer la machine quand elle est éteinte. Du coup, en allant se promener le dimanche ou la nuit, parfois, et en se promenant aux abords de cet incinérateur, on a pu prendre des photos ou filmer et constater que, par exemple, le gros compost ménager, hein, qui est censé être revendu aux agriculteurs du coin, et ben il finissait dans les fours de l'incinérateur parce qu'il leur fallait des trucs à cramer, quoi. Du coup, ils allaient jusqu'à faire importer des déchets
pour justifier
pour pouvoir continuer à faire tourner la machine. Et du coup, voilà, ça montre bien à quel point, en fait, ces gens n'en ont rien à foutre de l'environnement, ces gens n'en ont rien à foutre de la santé des gens, de la pollution. Voilà, la question des petites actions individuelles, là, qui sont un petit peu à la mode, là, ce qu'on entend un peu avec les colibris, tout ça, et ben, ça fait un truc qui ne remet absolument pas en cause le productivisme, le capitalisme, le développement des industries auxquelles les États font des cadeaux en permanence, des industries qui ne sont pas taxées, en tout cas pas autant les consommateurs et les consommatrices. Et voilà, moi, ça me posait problème là-dessus parce que je considère, et on est plusieurs, et on était plusieurs sur cette lutte, à considérer qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir une gestion des déchets dans le cadre d'une société capitaliste, que déjà, on ne choisit pas forcément les déchets qu'on produit. Et puis voilà, globalement, en fait, on ne règle pas un problème avec les gens qui ont créé le problème, quoi. C'est dans le cadre d'une société capitaliste, il y aura du profit, donc il y aura de la pollution, donc il y aura pillage des ressources naturelles. Et voilà, et moi j'aime bien dire, on règle pas le problème des marées noires en faisant culpabiliser les mouettes, quoi.
Et vous avez eu des discussions entre vous, là, entre les personnes qui n'étaient pas trop d'accord avec l'idée d'avoir des puces RFID et des poubelles qu'on devait payer au poids de la poubelle et les personnes qui voulaient ça. Enfin, ça a donné lieu à des débats, des trucs
Oui, ça a donné lieu à des débats, ça a donné lieu à la création d'autres collectifs en parallèle de cet assaut-là, qui avaient plus des visées anticapitalistes, et ça a amené à l'écriture de plusieurs textes dans un petit journal militant local. Enfin, voilà,
qui s'appelait comment ?
Ça s'appelait La Mouette Enragée. Mais c'était vraiment pas simple parce que on était vraiment considérés comme la bande d'anarchistes qui faisait chier, quoi. Et en face de nous, on avait toute une armée de bobos qui venaient de différents partis politiques allant des Verts jusqu'au Modem. C'était d'une part des politiciens et des politiciennes, d'autre part des gens qui venaient de classes sociales plutôt aisées, qui du coup voulaient imposer cette tarification incitative qui va probablement se mettre en place hein, au final. Et du coup voilà, il y a comme un énorme décalage de classe, quoi.
Et puis des gens qui avaient un intérêt là-dedans, le maire là, tu disais.
Oui, plus il y a eu des élections municipales entre temps qui se sont passées, donc le maire précédent était plutôt favorable à l'incinérateur, et du coup il y a une liste anti-incinérateur qui s'est montée. Donc voilà, il y en a qui ont commencé à faire carrière en politique comme ça, quoi, à travers cette lutte, et qui se retrouvent aujourd'hui à avoir des postes d'élus au département ou dans les communes voisines, derrière des étiquettes PS, Modem, UMP aussi parfois, enfin... Retrouver tout à fait tout le paysage politique là-dedans, quoi. C'est
la grande famille.
Le bonheur des associations citoyennes soi-disant apolitiques.
Et du coup, j'ai l'impression, toi tu dis, on peut pas faire des trucs chouettes pour l'environnement et prendre soin de l'environnement, entre guillemets, en faisant du capitalisme. Mais le capitalisme, c'est le système dans lequel on vit. J'ai l'impression que c'est pas parti pour que ça change tout de suite. Et du coup, le nouveau mot à la mode, là, j'ai l'impression, c'est capitalisme vert. T'en penses quoi ?
Bon, c'est un peu comme le développement durable, quoi. C'est comment ça s'appelle quand on met deux mots opposés ensemble ? C'est une oxymore ?
Ouais, quelque chose
comme ça. C'est ça, je crois. Et ben voilà, c'est un peu comme le développement durable. Ça marche pas ensemble, en fait. Le capitalisme vert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on repeint les usines en vert et puis tout va bien, quoi. Enfin, oui, on peut repeindre les incinérateurs et les centrales nucléaires
en vert. En matériaux écologiques.
Non, mais voilà, ça n'a pas de sens. On sait que les États, ils organisent leur convention sur le climat, là, régulièrement, là, ce qu'on appelle les COP, COP 21, COP 22, je sais plus à combien tiers on en est maintenant, mais ils arrivent toujours pas à trouver des accords parce que forcément, ben les États occidentaux, les pays les plus développés, comme on dit, en fait, c'est développés économiquement, hein, sont ceux qui bloquent les accords parce que ont trop d'intérêt avec les industriels, et du coup voilà, c'est encore une fois les pays pauvres qui trinquent. Après s'être fait piller leurs ressources naturelles, ils se retrouvent à subir le plus le réchauffement climatique parce que c'est les pays du sud qui subissent le plus le réchauffement climatique, quoi. Du coup oui, y a aussi, c'est lié au colonialisme, en fait, ce truc de capitalisme aussi.
Car c'est encore ainsi, tu qui détruit nos idées. À la ZAD comme ici, on choisit de résister. Vos profits puent la mort, on défile à Rochefort le 15 mars prochain pour virer tes pantins. Rendez-vous place Colbert avec toute ta colère. Et pour leur métropole, soyons pire que la vérole. Hey, incinérateur, ni ici ni ailleurs. Vas-y les gars, résistance et sabotage. Vos incinérateurs, comme vos aéroports, nous on les met à mort. Vos projets sont pourris, comme votre mode de vie. Partout face à Vinci, prenons en main nos vies. Hey, incinérateurs, ni ici ni ailleurs. Vinci dégage, résistance et sabotage. Hey, incinérateurs, ni ici ni ailleurs.
Voilà, du coup, après l'interview de Nestor, on a entendu une petite musique qui est un appel à manif en musique qui a été créé à l'époque de cette lutte. Bon, à leur décharge, ils ont écrit les paroles en 5 minutes. Ils ont enregistré en 20 minutes dans une cave. Bon, voilà, mais on trouvait ça intéressant de passer ce son. Et voilà.
Oui, et du coup aussi, si, on va mettre en lien sur le site de JTFM où est-ce qu'on a trouvé des informations. Et si ça vous intéresse sur les critiques de la collapsologie, il y a un article assez chouette dans le journal Arts Labour, qui est un journal de Rennes, qui est téléchargeable sur Indymedia. Et c'est le numéro de décembre 2018. Et l'article, ça s'appelle « Trigger Warning, fin du monde ». Et maintenant, c'est la fin de notre gros dossier. Et puis, on va vous faire un point actu et agenda.
La revanche des hérissons.
L'actu, actu.
Le 8 mars dernier, des milliers de femmes prenaient la rue pour lutter contre les violences sexistes, racistes, homophobes, transphobes, putophobes, validistes, capitalistes. À Nantes, une marche de nuit en non-mixité choisie a eu lieu, rassemblant entre 500 et 800 personnes. Pendant 2 heures, on a tourné dans la ville en brandissant des banderoles, criant, hurlant, chantant des slogans des plus classiques aux plus incongrus. La marche n'a pas trouvé d'obstacle sur son passage, qu'elle n'a pu éjecter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas partout, notamment à Bordeaux, où les manifestantes ont été harcelées par la police à plusieurs reprises. Du coup, je vais vous lire le communiqué de presse du collectif 8 mars Gironde. Bordeaux, le 10 mars 2019. À l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, plus de 800 manifestantes ont repris les rues de Bordeaux lors d'une manifestation de nuit non mixte. Nombreuses et déterminées, elles ont occupé le centre-ville de Bordeaux au rythme de la batucada, des slogans et des chants féministes. Mais la manifestation pacifique a dû faire face à une répression policière démesurée. Sur le cours Victor Hugo, à 21h45, alors que le cortège manifestait depuis 1h30 de manière pacifique, un camion de police est arrivé à l'arrière du cortège et 3 policiers ont extrait de manière musclée l'une des manifestantes à la stupéfaction générale. La police a alors lancé une grenade de désencerclement avant de faire usage de bombes à poivre et de lacrymogènes pour repousser les manifestantes. Des personnes autour ont perdu leur capacité d'audition pendant plusieurs heures. Une manifestante est sévèrement blessée au pied par la grenade de désencerclement. Les policiers, indifférents aux conséquences de l'usage de cette arme, ont alors pointé longuement leur lanceur de balles de défense sur les manifestantes déjà en état de choc. Après le départ de la police, la militante blessée a été prise en charge par les pompiers qui l'ont transférée à l'hôpital, d'où elle est sortie à 1h du matin. Vers 22h15, Il est décidé de continuer jusqu'à l'hôtel de police pour protester et demander la libération de la jeune femme interpellée. À l'arrivée à l'hôtel de police, suite à leur protestation, la manifestante arrêtée est relâchée, mais sera auditionnée le 11 mars prochain. À minuit, alors que le cortège se dirige vers le parvis des droits des femmes pour la fin de la manifestation, une dizaine de policiers casqués avec boucliers et plusieurs chiens agressifs leur bloquent le passage et les forcent ainsi à continuer à marcher vers la place de la République où a lieu finalement la dispersion de la manifestation. Et un peu plus tard, trois personnes quittant la manifestation sont interpellées et arrêtées sans raison devant le musée d'Aquitaine alors qu'elles marchaient tranquillement sur le trottoir. À ce moment-là, le dispositif policier est disproportionné. Trois voitures banalisées, une voiture de police et huit policiers cagoulés, habillés en civil, armés de LBD et de chiens. Les arrestations sont très violentes. Les trois personnes interpellées sont placées en garde à vue et relâchées seulement le lendemain à 19h. Ces interventions ont-elles eu lieu sur ordre du préfet en ce jour de lutte internationale pour le droit des femmes ? Le symbole est fort, des femmes se retrouvent en danger dans la rue du fait des violences policières parce qu'elles ont osé manifester pour le droit à occuper la rue de nuit, à ne plus être agressées, harcelées, violées. Alors que le gouvernement met en avant la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est aux violences policières que les Bordelaises ont été confrontées en ce 8 mars 2019. Nous exigeons l'abandon de poursuites injustifiées contre les femmes interpellées. Nous exigeons que les responsables de ces violences institutionnelles soient dénoncés et jugés. Nous affirmons notre solidarité envers l'ensemble des victimes de la répression policière et de la violence d'État. Nous ne céderons pas à ces intimidations. Le collectif 8 mars Gironde.
Alors, moi, je vais vous présenter vite fait trois points dans l'actu. D'abord, deux nouvelles plutôt tristes et une plus chouette. Alors, juste un mot, parce qu'il y a eu pour redire, je pense que les gens en ont entendu parler, mais comme ça fait moins de place, les médias prennent moins de place quand il s'agit d'attentats qui sont dirigés envers des personnes musulmanes. C'était pour... Il y a eu un attentat vendredi dernier, le 15 mars, en Nouvelle-Zélande. Il y a un suprémaciste blanc qui est rentré dans deux mosquées et qui a tué 49 personnes et il y a 34 personnes d'hospitalisées. Et donc ça a donné lieu à des rassemblements un peu partout. Et il y en a encore un à Amiens ce vendredi et à Orléans. Ensuite, il y a deux jours, l'anarchiste Georges Courtois qui a été retrouvé mort dans son appartement à Quimperlé suite à un incendie. C'est un braqueur qui est connu notamment pour avoir pris en otage la cour d'assises le 19 décembre 1985, le palais de justice de Nantes, et avec deux complices, Abdelkarim Rakli Kalki et Patrick Thiollet. Ils se sont enfuis en fait avec les juges et puis ils ont finalement été arrêtés un jour après à l'aéroport. Et voilà. Et pour finir sur une meilleure nouvelle, il y a Zehra Doan dont on avait parlé dans notre émission en octobre puis en décembre. Qui est journaliste à Jinha, qui est une artiste kurde, qui a été emprisonnée en 2016 puis en 2017 en Turquie pour avoir écrit sur l'occupation de l'armée turque au Kurdistan, côté turc, et qui a été libérée le 24 février 2019. Et du coup, on va passer à une petite musique et un agenda. C'est qui ? C'est Kirde Guidré.
Les tigres tuent les belles panthères, les poules zigouillent les vers de terre, les lions massacrent les jolies gazelles, les chats dépouillent les oiseaux de leurs ailes. Mais de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin? Les plus forts.
enfants à gogo. On peut tuer tout ce qui bouge, alors c'est qui les plus costauds? Les girafes s'empiffrent de feuillage, les vaches engloutissent des pâturages, les lapins se bourrent de carottes et de choux, et les pandas se goinfrent de bambou. Mais de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin? Mais de tous les animaux, les plus forts c'est nous, c'est les humains. Nous, si on veut, on peut vider les océans, couper les arbres et brûler tous les champs. Nous, si on veut, on peut même faire fondre les glaciers. On peut dégommer la planète, qu'ils arrêtent de se la raconter. Oui, de tous les animaux, c'est qui les plus forts et de loin. Oui, de tous les animaux, les plus forts, c'est nous, c'est les humains.
La revanche des hérissons. Agenda.
Agenda. Alors, pour cet agenda du mois d'avril, on peut vous parler déjà d'une performance de théâtre qui peut peut-être être intéressante et ou déprimante, mais on n'a pas vu le spectacle, alors on ne sait pas vraiment. Mais ça se passe mercredi, là, à Pollen. Ça s'appelle « Elle ». Et c'est un seul en scène tragicomique avec Marie Parent de la compagnie La Morsure. Donc, je vais vous lire vite fait le résumé. Elle est la mère de Milo, la femme de Philippe. Mais qui est-elle vraiment au juste? Elle, une femme en périphérie d'elle-même. Elle, une personne au milieu du guet, incapable d'atteindre l'autre rive. Elle est une figure victime de son genre parmi des millions d'autres. Une femme sans le vocabulaire de la révolte, sans adresse, qui cherche ses bords à l'aveugle. Une figure féminine sacrifiée sur l'autel des dominations, qui cherche sa place et ne peut se dire. Un être perdu, broyé joyeusement par les normes d'une société patriarcale, de sa famille, de sa communauté, toujours déterminée par l'extérieur. Une femme assignée à paraître et à l'illusion d'être. Elle cherche dans le stand-up une forme au fond à laquelle elle n'a pas accès. Donc c'est à Pollen le mercredi 3 avril, c'est à prix libre. Et voilà, si vous y allez, vous pouvez nous envoyer un petit mail ou un petit message pour nous dire comment c'était. Sinon, le vendredi 12 avril, donc en attendant de brûler toutes les prisons, il y a une projection du film « Ils nous ont volé nos nuits, femmes face à la prison ». Donc c'est un film qui a été tourné au Mexique en octobre 2016. Et c'est un documentaire qui est un outil de lutte anticarcérale et contre l'oubli. Je vous lis le résumé encore une fois. Ex-prisonnière, compagne solidaire, mère de famille ou camarade, y racontent la manière dont la tôle s'empare de leur vie. Elles y parlent de la détention, des violences sexuelles, du sexisme à l'intérieur et hors des murs, de la stigmatisation en tant que proche de personnes incarcérées, mais aussi de leur manière de s'organiser et de tisser des réseaux de solidarité. Donc on vous conseille vraiment d'aller voir la projection de ce film. C'est le vendredi 12 avril à 20h à B17, donc au 17 rue Paul Bellamy, au fond de la deuxième cour, en haut au-dessus de l'atelier. Voilà, vous pouvez retrouver cette info aussi sur Indymedia. Et un dernier truc qu'on a envie de vachement vous conseiller, c'est un week-end d'atelier qui se passe les 20, 21, 22 avril. Du coup, un week-end d'échange de techniques et de savoirs en non-mixité inclusive par et pour des personnes trans, des femmes, des lesbiennes, des personnes bi, non-binaires et meufs, et par et pour des bricoleuses débutantes et averties. Bref, sans mexis. Et du coup, c'est un week-end qui se veut autogéré, expérimental, informel, non-productiviste et avec des ateliers théoriques et ou pratiques. Voilà, le week-end, il va se construire en fonction des envies, des besoins et des compétences et des moyens de chacun chacune. Sur leur site internet, elles disent « Amène tes légumes, lunettes, gants, vêtements de travail, scie sauteuse, perceuse, meuleuse, poste à souder, ferraille, tournevis, livre, tuto, lino, cutter, radiographie, envie d'apprendre et ou de transmettre tes théories et tes questions. Même les mains vides, amène-toi. Donc le week-end est à prix libre. L'idée, c'est de partager les frais de chacun, chacune, selon ses moyens, pour payer la bouffe, le matos des ateliers et des frais de transport pour les personnes. Il y aura des ateliers soudure, théorie et pratique, radical tricot, électricité, cuisine d'impro collective, linogravure, pochoir, prise de son et montage. Et du coup, n'hésite pas à ramener à boire ou à manger de chez toi ou de la poubelle du supermarché d'à côté. Et donc l'accueil est possible dès le jeudi 19 avril. Donc ça se passe au Maquis des Pétroleuses, c'est à Moidon-la-Rivière, du côté de Châteaubriant. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur leur site. Si vous cherchez le Maquis des Pétroleuses sur Internet, vous allez trouver ça. Il y a moyen de camper sur place et voilà. Ça s'appelle Radical de la couture à la soudure et ça va être super bien.
Oui, donc, ça va être trop bien, faut venir.
Faut venir. Et ben voilà, la revanche des hérissons, c'est fini pour aujourd'hui. On vous recapte dans un mois. Des bisous.
Salut.
Salut.
Ciao.
La revanche des hérissons sur Jet FM 91.2.